Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été réélu en mars dernier pour un troisième mandat. C'est loin déjà depuis, vous êtes restée extrêmement discrète, donc c'est l'occasion ce midi de faire un point de l'actualité avec vous. Vous ne communiquez pas beaucoup, mais j'imagine que vous travaillez depuis le mois de mars.
Oui, puis pas que depuis le mois de mars, voilà. Moi, c'est vrai que je suis pas une grande communicante. Voilà, mais c'est un choix que j'ai fait, parce que je trouve que la com, ça tue la com, c'est comme l'impôt. Hein. Voilà. Donc, je suis plus dans l'action et les résultats. C'est comme ça, on va pas me changer.
Faut pas trop communiquer. Quels sont les problèmes principaux que rencontre une ville comme Nouméa aujourd'hui? 2 ans, on est toujours obligé d'en parler, un peu plus de 2 ans après les violences insurrectionnelles. Vous avez essentiellement des problèmes financiers, on sait que toutes les collectivités en ont, ou des problèmes de reconstruction parce que Nouméa a été très fortement impactée par ces violences?
Oui, impactée à hauteur d'un peu plus de 4 milliards. On a eu la chance d'avoir été bien assuré et de pouvoir toucher presque 5 milliards. Donc on s'est engagé bien évidemment à reconstruire avec cet argent et voilà. Mais au-delà de la reconstruction, il est évident qu'aujourd'hui les communes ont des soucis financiers. Mais voilà, on avance et on baisse pas les bras et on va reconstruire. Ça a mis un petit peu de temps. Mais on voit bien que tout le monde est logé à la même enseigne, y compris dans le privé, hein, si on parle de reconstruction, parce que arrive aujourd'hui sur le bureau de l'urbanisme à la mairie les dépôts de permis de construire. Rien n'est facile. Moi, je voudrais bien que ça aille beaucoup plus vite, mais il faut qu'on fasse avec, entre les études bâtimentaires que vous devez faire, entre les appels d'offres qui mettent du temps, donc voilà. Mais on avance et on va faire.
Quelle a été votre priorité? Quels sont les quartiers sur lesquels vous vous êtes attaché en premier en vous disant bon ben là c'est urgent, il faut y aller quoi?
Oui, eh ben c'est en particulier les quartiers nord, c'est ceux qui ont le plus souffert. Donc on a déjà remis en action l'hôtel de police de Rivière-Salée. Et comme on avait 2 maisons, on les a totalement rénovées, elles n'avaient pas brûlé. Et donc on y a logé aussi la police municipale dans une et dans l'autre la police nationale. On a réussi à faire ça, ce qui veut dire que la police nationale a aussi un dépôt de plainte sur Rivière-Salée. Et comme on travaille en synergie totale avec la police nationale, donc ça fonctionne plutôt bien. Le pôle de service de Rivière-Salée, on va le reconstruire, on va y loger la médiathèque, on va mettre le pôle de service, la maison de la famille, la maison de quartier. Et donc ça aussi, on en est aux appels d'offres aujourd'hui, donc ça va commencer dans quelques semaines, voire un mois ou deux, et donc ce sera bien opérationnel à la mi-2027. On a aussi fait de gros travaux routiers, parce que les routes étaient très endommagées, et donc on est allé bien évidemment sur ceux qui avaient le plus souffert, c'est-à-dire Rivière-Salée, mais aussi la rue du 18 juin à Magenta. Et voilà, donc...
À la vallée du Tir également, hein, qui a eu des travaux.
On a refait le parking qui est à côté de l'ancienne salle Anéoui, puisque là les travaux vont commencer aussi. On va faire un plateau sportif, et donc ce parking était en mauvais état, et donc on est obligé de le regarder ce problème de manière globale et ne pas faire juste un tout petit morceau et puis laisser l'autre dans un état déplorable.
Ah, vous le savez, certains vous font le reproche justement de faire des travaux dans ces quartiers-là, Vallée du Tir, Rivière-Salée, en disant que c'était pas eux qu'il fallait aider étant donné les circonstances et les raisons pour lesquelles ces quartiers avaient été endommagés. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique?
Ben là, je trouve que cette critique, elle est stérile, elle est malvenue. Parce que ceux qui disent ça n'habitent certainement pas ce quartier populaire de Rivière-Salée qui a été extrêmement endommagé avec des gens qui ont été en souffrance. Et la ville, vous savez, c'est un tout. Et donc on peut pas faire des choses que dans un quartier et puis oublier les autres. Donc la nécessité a impliqué qu'on aille d'abord sur Rivière-Salée qui avait été très endommagé. Donc moi je veux bien accueillir les critiques. mais quand elles sont de cet ordre, dans un quartier très populaire, avec une diversité culturelle incroyable, on doit penser à tout le monde. Donc voilà, on peut critiquer quand c'est utile, mais quand c'est inutile, il ne faut pas le faire.
Alors quand on parle de reconstruction, il y a l'aide de l'État, et on reviendra plus tard sur l'aide financière de l'État, mais il y a l'aide de l'État qui est dans le plan de relance. Il y a des opérations qui concernent Nouméa, pour l'instant il y a la vague 1, il y a la vague 2, on attend une vague 3. Vous êtes déjà concerné par ces deux premières vagues?
Oui, dans la première vague, la vague 1, on a refait le talus du Wentoro qui s'effondrait juste en face de la bodega. Donc là on a eu un financement très important de l'État. Sur la vague 2, on y a inséré toute une partie d'assainissement qui est liée à la piste cyclable qui part de Enghea et qui va rejoindre à travers le faubourg Blanchot la ville. On a aussi bénéficié de fonds de l'État concernant la digue de Port-Garnier avec l'enrochement qui s'effondre. Et donc, on va refaire. Donc, voilà les trois... Les trois travaux que nous avons, pour lesquels nous avons bénéficié d'aide de l'État.
C'est vous qui les déterminez, c'est vous qui choisissez les travaux sur lesquels... Et il faut que ce soit fait dans un délai relativement court en plus, donc il faut que les dossiers soient prêts. Quoi. Voilà.
À partir du moment où vous demandez le financement de ces travaux, il faut que les études soient terminées et que vous êtes prêts à lancer les appels d'offres. Donc on était dans les clous, ça se passe très bien de ce côté-là.
Alors Nouméa qui vit toujours, malgré tout, dans ce climat un peu... post-émeute, post-violence, sont les quartiers nord, on en parlait, qui se sont embrasés. Est-ce que ça change quelque chose dans la politique de la ville, dans la manière d'aménager la ville? Est-ce que vous allez revenir sur certaines infrastructures en vous disant, bon, bah, y a un danger à les installer, là, il faut changer les choses? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut favoriser ces quartiers pour éviter justement la misère sociale ou l'abandon de ces populations?
Oui, mais c'est ce qu'on a fait en remettant un poste de police, en ayant aujourd'hui, nous sommes dans les appels d'offres concernant le pôle de service. Bien sûr qu'il faut faire, on ne peut pas abandonner ces populations. Et donc, voilà, je vous disais il y a un instant que la ville est un tout et on est obligé de faire des choses, on ne peut pas abandonner des quartiers, on est obligé de regarder l'ensemble de Nouméa et l'ensemble de ces quartiers.
Vous allez refaire des médiathèques, vous allez refaire des aménagements sportifs, même s'ils ont été détruits.
Oui, c'est-à-dire que les aménagements sportifs à Rivière-Salée n'ont pas souffert, mais le pôle de service a complètement brûlé. Donc là, on y loge la médiathèque, parce qu'il y en avait une. On crée le pôle de service qui rend énormément service aux gens, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un papier administratif, eh bien vous pouvez aller, ne pas aller en centre-ville, mais aller directement au pôle de service. Donc on va amener les services qui étaient dans ces quartiers, et en particulier sur Rivière-Salée. On réfléchit à ce qu'on va faire concernant la bibliothèque de Caméré. Est-ce qu'on doit y reloger une médiathèque là ? On est en discussion quand même parce qu'on a vu fleurir beaucoup d'associations après les émeutes, des gens qui se sont réorganisés, qui pensent différemment et qui agissent différemment aujourd'hui, en allant plutôt vers les populations. Et donc peut-être qu'on peut essayer de faire une maison commune qui va servir aux associations de ces quartiers de façon à ce qu'ils peuvent se retrouver, ils peuvent... aussi organiser des événements comme les mini-marchés de quartier. Ça, c'est important et il a fallu se réinventer. Et donc, par exemple, la politique de la ville, cette direction-là, où on avait nos maisons de quartier qui ont brûlé, on avait, avant, on le disait aux gens, mais venez vers nous, venez à la maison de quartier. Il a fallu réfléchir, innover, se réinventer. Et donc, comme il n'y avait plus de maison de quartier, ben maintenant, on se déplace et on va vers les gens, ou plutôt que de leur dire, venez vers nous. Et j'avoue que, finalement, dans le marasme qu'on a connu, se réinventer nous a permis aussi de réfléchir et d'agir différemment. Et on voit que ça fonctionne sans doute mieux comme ça.
Ah, il y a beaucoup d'initiatives privées, vous le disiez, beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui essaient de s'aider mutuellement. On parle de misère sociale aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'était pas le cas il y a quelques années. Est-ce que vous le ressentez, et notamment à travers les dispositifs d'aide municipaux, il y a vraiment une augmentation des besoins, des demandes d'aide?
Il y a une augmentation de la paupérisation, ça c'est évident. Vous savez, au CCAS, qui a un public cible, qui étaient les personnes âgées, les personnes handicapées, depuis qu'on a eu les événements et depuis la mise en place du dispositif de solidarité républicaine qu'on appelle la DSR, avec des fonds qui ont été octroyés aux communes, mais pas que, aux provinces aussi. Et donc on a aujourd'hui plus de 2000 familles qu'on ne connaissait pas, qui ont pointé, voilà, qui sont venues, on les a accueillies au CCAS, et on a constaté quoi dans ces 2000 familles? Eh bien, ça va des personnes âgées, ça va à des couples sans enfants, des couples avec enfants, des couples qui sont sans emploi, et donc, et des familles qui sont dans une précarité extrême. Le budget global du CCAS est de 85 millions par an pour les aides. Aujourd'hui, on a très largement dépassé ça, puisque grâce à l'aide de l'État, la DSR, qui nous a donné 191 millions qu'on a dépensés, et on n'a pas fini encore. Il nous reste encore un petit peu à distribuer, mais ça va aller jusqu'au 10 octobre. Donc quand vous additionnez les deux, 85 millions le budget du CCAS, plus les 191 millions qu'on a déversés déjà, ça fait 270 millions. On voit bien cette progression, et on voit bien que la misère est au rendez-vous. Mais tout ça, c'est la cause de qui? Les émeutes. Et donc, voilà, ça doit amener à réfléchir pour se dire, est-ce qu'on a encore envie de voir ça? Est-ce qu'on a le droit de laisser nos populations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans cette misère qui s'est installée, et avec des nouveaux pauvres? Eh bien, la question est non. Et donc, l'État ne pourra pas non plus, nous on n'a plus beaucoup d'argent, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais l'État ne pourra pas indéfiniment verser de l'argent comme ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, on doit, ça doit faire réfléchir tout le monde, et y compris ceux qui sont dans cette précarité, qui n'ont rien demandé, mais qui subissent aujourd'hui. Donc relever le pays et faire en sorte que ça fonctionne, alors il faut réfléchir à notre avenir institutionnel. Voilà. Parce que là, on a touché le fond, mais peut-être pas. Demain, si le pays venait à changer, et que, je vais le dire tout de go, hein, je cache pas mes mots, si le pays devenait indépendant demain, alors je pense que la précarité serait encore bien plus grande. Voilà. Donc je demande à tout le monde d'avoir un peu de sagesse et de réfléchir.
Voilà qui est dit. On parlera de l'avenir institutionnel dans un moment. On va un peu positiver. On parle reconstruction, puis vous aviez dans votre campagne électorale deux grands projets. Vous aviez dit un dans le nord, un dans le sud. Est-ce que ça, vous avez pu les lancer? Vous en êtes où?
Alors, les études sont terminées. Il faudra aller chercher, là encore, on en revient, le nerf de la guerre. J'avais dit une chose pendant la campagne. C'était de dire, nous, on a une campagne qui est extrêmement raisonnable. Il faut faire attention, il ne faut pas faire des promesses pendant une campagne électorale que certains ont fait et qu'ils ne pourraient pas tenir, mais ils n'ont pas été élus. Voilà. Moi, j'ai été très prudente sur le sujet. Les études sont terminées, à la fois pour le Nord, sur la réhabilitation du parc de Rivière-Salée et sur la baie des Citrons. On verra bien, parce qu'on aura besoin de l'aide de l'État à travers les contrats d'agglo. Et aujourd'hui, on n'a pas encore l'État qui nous a sollicité pour les contrats de l'année prochaine. Mais j'espère bien qu'on pourra phaser ces deux projets. Ils se feront, comme je l'ai dit, à l'échelle d'une mandature.
Donc ce sera dans le contrat de développement plutôt que dans le plan de relance, a priori, parce qu'il y a encore une phase 3 du plan de relance dans laquelle il y aura peut-être d'autres projets qui pourraient être inscrits.
Oui, on pourra jouer sur les deux tableaux, si vous voulez mon avis. Donc voilà, on va s'activer.
Alors, l'une des conséquences aussi des émeutes, il y en a beaucoup, hein, c'est la crise qui frappe le commerce, et c'est notamment le cas, bien sûr, pour le centre-ville de Nouméa, vous le savez bien. Comment est-ce qu'on peut arriver à redynamiser le commerce? À quoi ça tient? Alors, vous allez me dire qu'il y a moins de consommateurs, sans doute, que les choses sont trop chères. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de redynamiser le commerce? Est-ce que vous comptez notamment sur la mission que met en place la CCI pendant 15 jours, il y a une quinzaine sur le commerce, avec un expert venu de métropole? Ça peut aider à trouver des idées, trouver des solutions?
Ben vous savez, on a toujours tendance à dire, plus on met de fous autour de la table, et plus on va trouver les solutions.
Non, plus on rit, plus on rit.
Oui, ou plus on rit, mais aussi on peut mettre plein de fous autour d'une table. Mais le problème, je crois qu'on ne peut pas dupliquer les modèles métropolitains. Ça, c'est une première chose. C'est ce que j'ai dit à M. Sarrazin, qui est là pour la CCI, que je connaissais par ailleurs. La crise est là, elle se fait ressentir, mais il y a plusieurs sujets dans l'attractivité du centre-ville. Il y a à la fois, et je l'ai dit et je l'ai écrit dans mon programme de campagne, c'était de dire que les loyers sont excessifs en ville. Une étude qui a été faite bien avant les élections municipales avait donné le ressenti des commerçants en centre-ville. Et tous s'accordaient à dire que le prix du mètre carré était plutôt de l'ordre de 2000 à 2100 francs le mètre carré. On voit des loyers aujourd'hui en centre-ville qui sont 4 fois, 5 fois, voire 6 fois plus chers. Donc, ça devient compliqué. Alors que, de manière raisonnable, un loyer, il doit être environ de 10% de votre chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est imparable. C'est ce qui se passe en métropole et c'est ce qu'on retient aujourd'hui en centre-ville, dans les villes métropolitaines.
Vous demandez aux propriétaires de faire un effort.
Il faut faire un effort. Ça veut dire que la crise, elle est là. On ne peut pas la nier. D'accord ? Mais il faut aussi que les gens soient raisonnables. Voilà. Donc, si on n'est pas raisonnable, il est évident que si vous proposez à la location un loyer qui est 3 fois, 4 fois plus cher ou 5 fois plus cher, il est sûr que le commerçant va réfléchir 2 fois avant de s'installer. Et puis, on a aussi, sans doute, dans la réflexion qui est celle d'Aïdé et donc de M. Sarrazin, c'est de dire, mais la ville, elle est peut-être faite un peu de briquet de broc, peut-être que, au niveau de l'esthétique, ça participe aussi à l'attractivité de la ville. Et là, je lui ai répondu en lui disant, mais vous savez que nous n'avons aucun moyen de pouvoir influencer les propriétaires pour qu'il y ait des rénovations d'immeubles, que les façades soient plus harmonieuses. Parce que en France métropolitaine, quand on compare le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et celui de la métropole, il est complètement différent. Et ils ont des possibilités, ils ont des outils pour forcer les propriétaires à faire en sorte que le centre-ville soit harmonieux. Nous n'avons pas cette possibilité et donc il faudrait engager une réflexion là-dessus pour que on puisse élargir notre champ de compétences à travers le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, qui donc, pour les communes, qu'on puisse au moins l'élaborer, l'élargir, pour retrouver un champ de compétences qui sont celles des communes, en métropole, de façon à ce que nous, on puisse avoir des outils pour influencer un petit peu. Voilà. Donc, moi, je le souhaite ardemment. Mais c'est pas facile, Changer le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'il faudra passer par l'Assemblée nationale. Alors c'est peut-être un peu moins douloureux que les finances, mais peut-être qu'on peut y arriver.
Dans l'attractivité, il y a la sécurité aussi, oui. J'imagine. On en est où de la sécurité à Nouvelle ? Les gens se plaignent aussi, vous avez l'habitude, d'une espèce d'insécurité. On a vu une hausse de cambriolages sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs pas seulement sur Nouméa.
Oui.
Vous le ressentez aussi ? Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette délinquance, cette insécurité ?
Alors c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle avec la police nationale ou la gendarmerie, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation des cambriolages. Je ne suis pas en train de minimiser les faits en disant ça. Mais on a aussi, par contre, une recrudescence de vols de voitures. Et on a surtout une recrudescence des refus d'obtempérer. Alors ça met en danger les policiers. C'est devenu une espèce de fait aujourd'hui récurrent. On vole une voiture, on est poursuivi par la police et donc on met le pied sur l'accélérateur et on prend tous les risques. Voilà. Alors, on a une police municipale, pour répondre à votre question, qui est très active. On a aujourd'hui près d'une centaine de policiers sur la ville tous les jours. 50 environ le matin, 50 l'après-midi, plus la nuit. Les vendredis et les samedis, ils sont très nombreux, les samedis soirs, qui sont des soirées de sortie, en fait, voilà, particulièrement sur les baies. Et donc, la police est très active et on a enfin trouvé cette synergie avec la police nationale, où on travaille en parfaite collaboration, qui est un gage d'efficacité et de réactivité. Donc, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut sur la police, mais aussi je voudrais dire que par rapport au cambriolage, par rapport au vol de voiture, on a un taux d'élucidation des affaires qui est quand même extrêmement conséquent. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont envie de voler une voiture ou qui ont envie de cambrioler, eh bien on peut démêler les affaires extrêmement vite. Donc c'est sûr que à la sortie, ils se font avoir.
Et la baisse des effectifs des forces de l'ordre qui étaient envoyées par Paris, qui diminue hein, progressivement, on l'a bien vu, on le constate tous, ça n'a pas de conséquences encore sur Nouméa, c'est plutôt à l'intérieur où le nombre moindre de gendarmes mobiles a peut-être des conséquences.
Non, mais d'après les informations que j'ai, il reste encore 8 escadrons, c'est 80 personnes par escadron. Sur la ville de Nouméa, il en reste 2, ça fait 160 gendarmes. Et ils sont... heureusement qu'ils sont là aussi pour aider, parce que la ville est grande, il faut la sécuriser de toutes parts. Alors j'espère qu'on arrivera à les maintenir, mais voilà. Je crois que l'État est très conscient que la situation n'est pas aussi réjouissante en termes de cambriolage, de vol de voiture, etc. Et que je pense que l'État prendra en considération qu'il faut en laisser quelques-uns.
L'autre gros chantier, on l'a déjà évoqué, survolé, celui des finances de la ville. Toutes les collectivités calédoniennes ont des problèmes financiers, mais vous en êtes où ? Est-ce que vous allez arriver à boucler votre budget 2027 ? Parce qu'on est déjà au mois de septembre, donc on imagine qu'on travaille déjà dessus.
Oui.
Quelle va être votre marge de manœuvre, en fait ?
Ben écoutez, au moment où je vous parle, je suis pas très optimiste. Les calculs qui ont fait la réunion que j'ai pu avoir avec les services hier nous laissent présager rien de bon. Si on ne nous maintient pas le FIP, vous savez que les communes, elles sont alimentées par la Nouvelle-Calédonie et le FIP dépend des ressources fiscales.
Le Fonds intercommunal de péréquation.
Exactement. Et donc, la dernière annonce que m'avait fait le président du gouvernement il y a 3 semaines de ça, de me dire, Madame le maire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et avant qu'il me le dise, je lui ai dit, vous allez nous baisser le FIP. Et il me dit, comment vous le savez ? J'ai dit, j'ai pu anticiper, puisque j'avais lu dans le journal 2-3 jours avant qu'il y avait une baisse des ressources fiscales à hauteur de 50 milliards. Donc, comme on est très dépendant de ça, et je lui ai dit, vous allez amener les communes dans le mur si vous faites ça. Il me dit, oui, mais je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Et d'autre part, sur les centimes additionnels, je suis incapable de vous les payer jusqu'à la fin de l'année. Donc, oui, d'accord. Donc là, je vois qu'il y a une mission qui est partie. Mais ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que si les communes enregistraient une baisse du FIP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assis sur une assiette globale qui s'appelle le budget de répartition, qui a été mis pour cette année à 101 milliards. Mais si on redescendait à 98 milliards tel qu'il est prévu, ça veut dire qu'on reviendrait dans une situation qui serait identique à celle de 2024. Ça veut dire quoi pour la commune de Nouméa ? Ça veut dire qu'on ne serait plus à payer que le fonctionnement, plus d'investissement. Et on serait même, à la fin de l'année, à ne plus pouvoir payer l'intérêt de la dette. Donc, quand on va chercher de l'argent à Paris, c'est bien. Mais je crois qu'il faudra regarder tout ça de manière globale. Je voudrais insister sur ce point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas baisser le FIP aux communes. Parce que ce sont les communes qui investissent. C'est elles qui vont travailler le BTP. Et donc, on tournera en ce moment la queue, parce que si jamais on n'a plus d'argent, eh bien, on ne pourra plus faire d'investissement, et donc, on ne pourra plus faire travailler le BTP. Donc, il faut être relativement raisonnable sur la répartition de l'argent, autant que faire se peut. Mais tout ça dépend aussi, concernant les ressources fiscales, d'une stabilité institutionnelle. C'est le moteur de tout. Et donc, s'il n'y a pas de stabilité institutionnelle, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver un accord, alors on se prépare des jours extrêmement compliqués, en particulier pour les communes.
Puisque vous parlez gros sous, l'actualité du jour, hein, ça a été annoncé hier soir par le Premier ministre Sébastien Lecornu, l'État renouvelle son aide pour la Nouvelle-Calédonie pour finir 2026, pour commencer ou tenir en 2027. Ça a été le résultat de la mission transpartisane qui vient de passer 5 jours à Paris. On n'a pas encore tous les détails, mais qu'est-ce que vous pensez déjà de ce renouvellement, de ce qui a été annoncé ? Ça vous paraît suffisant ou vous vous dites il en manque, le compte n'y est pas ?
Alors, c'est bien d'avoir tenté la chose. Voilà, parce que on est aujourd'hui, moi j'ai pas peur du mot, on est un peu des mendiants, hein. Voilà. Et heureusement que la France est là. Ça aussi, c'est un sujet de réflexion. Je m'arrête 2 secondes, mais je crois qu'il est important. Et donc, Alors c'est bien d'y avoir été. En tout cas, ça n'est pas totalement dans ce qu'ils espéraient obtenir. Mais il y a quand même une avancée de l'État, et l'État, nous, à travers ça, prouve qu'elle ne marque aucun des intérêts pour la Nouvelle-Calédonie, et c'est tant mieux. Voilà. J'ai lu quelque part qu'on n'était pas des Français de deuxième zone. Oui, bien sûr qu'on est des Français à part entière, et ça nécessite l'aide de l'État. Donc, voilà, on verra bien, ils vont revenir, parce que là, on a plutôt la communication qui a été faite autour de cette affaire. Je sais qu'ils voient le président de la République, peut-être même en ce moment où on se parle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans les clous. Et il y aura un effort à faire de la part de l'État, tout en sachant que l'État, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement compliquée. Donc on doit se réjouir de ce qu'on a obtenu, ça n'est pas la totalité de ce qu'on espérait avoir. Ça permettra de terminer l'année, peut-être pas avec l'objectif qui s'était fixé, mais en tout cas, ça méritera de toute manière d'aller vers des réformes qui sont indispensables et qui vont faire mal.
Il paraît. Le rendez-vous avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron, c'est à 16h la nuit prochaine, enfin 16h vendredi, heure de Paris, donc.
D'accord.
La nuit prochaine pour nous. Justement, on va parler un petit peu politique parce qu'on vous a pas, vous êtes discrète depuis des mois, on vous a pas entendu parler à propos des élections provinciales. Vous avez soutenu, on le sait, la liste d'union, les loyalistes, le rassemblement. Finalement, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats? Vous êtes plutôt satisfaite de la manière dont les choses se sont passées et des résultats qui ont été suivis par la signature d'un pacte de gouvernance avec l'éveil océanien?
Oui, alors mon choix, il était tout tracé. Je suis allé soutenir ceux qui disaient qu'il fallait que on reste dans la France. Pour moi, c'est pas un sujet. Voilà, il faut rester dans la France. Quand on voit les résultats au Congrès, c'est quand même relativement serré. Et donc, vous me posez la question sur le pacte de gouvernance avec l'éveil océanien. Ben, on n'avait pas beaucoup de possibilités. C'était soit un gouvernement indépendantiste, soit on mettait quelqu'un qui avait envie de faire des réformes et qui a réfléchi en se disant il n'y a que ce pacte qui peut faire avancer les choses, dans le sens où si on est tous d'accord pour faire des réformes et essayer de remettre la Nouvelle-Calédonie en marche, alors allons-y. Voilà. Mais le choix, il était extrêmement limité.
Vous y croyez à cette capacité de réforme de la Nouvelle-Calédonie? Vous pensez que maintenant qu'il y a une majorité installée par ce pacte de gouvernance au Congrès, les choses vont peut-être pouvoir avancer mieux que dans la mandature précédente?
Mais je crois qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, et donc la réalité nous rattrape aujourd'hui. Alors la réalité, elle nous rattrape depuis un certain nombre d'années déjà. Quand je dis qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, on n'a pas pris les réformes nécessaires. Mais je vais jeter l'opprobre sur personne en disant ça. Je pense qu'il faut se réinventer, il faut innover et il faut y aller. Parce que l'argent que déverse l'État aujourd'hui, le déverse avec des conditions. C'est-à-dire, faites les réformes nécessaires. Vous avez voulu les transferts de compétences, vous avez des leviers qui sont dans vos mains aujourd'hui, donc actionnez-les, parce que la France n'a plus beaucoup d'argent, n'en a même presque plus, est très endettée, et donc ça ne pourra pas durer indéfiniment, sauf à prouver que vous êtes capable de faire les réformes nécessaires. Il faut faire des vraies réformes, pas des réformettes. Et donc, ça va faire mal à tout le monde. Mais je crois qu'elles sont nécessaires. Il faudra faire attention dans les réformes qu'on fait. Parce que s'il s'agit demain d'augmenter, par exemple, je prends juste un exemple, la fiscalité, ça va toucher une couche de la population qui paye. Et puis, vous avez une large frange de la population qui ne paye pas. Et donc, il faudra faire attention, parce qu'on va toujours chercher l'argent là où il est. Voilà, pour utiliser une formule relativement populaire. Voilà. Mais elles sont indispensables, en particulier sur les dépenses de santé, sur le RUAM et tout. Donc, on attend de ces élus, et je crois que l'ensemble de la population attend exactement la même chose, c'est-à-dire, allez-y, on vous a pas élu pour rien. Voilà. Il me semble qu'ils ont tous cette volonté, donc, voilà. Pour l'instant, je fais confiance.
Pour l'instant, on note.
Non, mais
Bien sûr.
Je dis pour l'instant, c'est pas... Oui, mais je crois que tout le monde pense pareil. C'est bien ce qu'on attend des élus aujourd'hui, voilà, tout en sachant que ça va faire mal quelque part au porte-monnaie. Mais il faut y aller. Mais parallèlement à ça, vous pouvez pas demander aux gens de payer, de faire des efforts drastiques si les efforts d'un autre côté de la part de nos élus ne nous amènent pas vers un statut et vers une stabilité institutionnelle dans le pays. Les deux vont de pair.
Vous avez parlé à plusieurs reprises d'avenir institutionnel. Pourtant, on a l'impression là que c'est qu'on est sur pause et que tout le monde dit faut attendre l'élection présidentielle puis les élections législatives pour s'y mettre et pour recommencer à parler de l'avenir institutionnel. Vous pensez qu'il faut s'y remettre tout de suite ou vous pensez que on a raison d'attendre un petit peu avant de relancer ces discussions?
Alors, je n'ai pas la formule. Aujourd'hui, on est dans une situation qui reste relativement compliquée, avec une élection présidentielle qui va arriver, des législatives qui vont suivre. Est-ce que le temps aujourd'hui, parce que vous comprenez que tout se vaut, c'est le temps des réformes pour nous. Donc, excusez-moi madame, mais il y a un peu de boulot quand même sur la planche. Et il y a en même temps à essayer d'envisager un avenir institutionnel et se mettre autour de la table. Le timing est extrêmement serré. Donc, est-ce que ça se fera après? Alors, tout le monde est en attente, bien évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je vais pas redire que c'est le moteur de tout. Donc, moi, je n'ai pas la formule, mais le travail s'accumule. Alors, est-ce qu'il faut parallèlement s'activer peut-être à faire des réformes et essayer de faire comprendre aux uns et aux autres, selon votre obédience politique, que les réformes sont absolument nécessaires pour remettre le pays en marche? Peut-être que c'est aussi le bon timing de se dire, eh bien, écoutez, on va remettre le pays en marche et en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? C'est peut-être pas dénué de sens non plus. Mais, en tout cas, mais je n'ai pas la formule.
Ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Pour conclure, Madame le maire, on vous y faisait allusion, bientôt l'élection présidentielle, hein, c'est en avril-mai de 2027. On sait que vous avez toujours soutenu Emmanuel Macron, il ne peut pas se représenter après deux mandats. Hein. Est-ce que vous savez déjà et est-ce que vous allez soutenir un candidat ou un autre dans cette élection présidentielle?
Écoutez, au moment où on se parle, ça me semble prématuré. Voilà, je ne répondrai pas à cette question. Moi, j'attends de voir comment va s'éclaircir le paysage politique, que tous ceux qui vont se présenter, on saura exactement où ils veulent aller, ce qu'ils proposent. Je crois que c'est du bon sens de les jauger, de regarder le programme qu'ils vont présenter. C'est un peu anticipé pour moi. Ce que je sais, par contre, c'est que je sais pour qui je ne voterai pas.
Vous n'avez même pas besoin de le dire ou non? Tout le monde comprendra?
Mais je pense que tout le monde comprendra.
Ça aura de l'influence sur la Calédonie, la personnalité du président ou de la présidente de la République élue en mai?
Mais évidemment, il faut faire attention à ce que les uns et les autres diront, à la fois sur leur perception et les réformes, là encore, qu'il faut faire en France, et puis quel est l'intérêt des uns et des autres pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, pour l'Outre-mer, mais pour la Nouvelle-Calédonie en ce qui nous concerne, et peut-être comment ils envisagent l'avenir de la Calédonie. Moi, ça me paraît important. Voilà. C'est à nos élus ici de décider, mais je pense qu'ils auront les uns et les autres un avis sur la question. Et donc, ça sera déterminant pour ceux qui devront faire ce choix.
Et vous attendez que ça s'éclaircisse un peu, les candidats on peut penser du bloc central, et c'est une notion très large, que oui. Ça s'éclaircisse un peu et qu'on sache qui finalement sera vraiment candidat.
Ben oui, on le sait un peu d'ores et déjà, mais ça peut toujours évoluer. Donc, attendant qu'ils se déterminent et qu'ils aient posé leur candidature.
On vous reposera la question alors.
Ah ben c'est ça, mais je vous attends au tournant, je m'en doute.
Merci, merci Madame le maire d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence, surtout que ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu, hein, je le répète.
Merci à vous.